Salut, c'est Fanny de ACE Formation. Après 13 années dans le soin en tant qu'infirmière puis thérapeute indépendante, je forme et j'accompagne les professionnels qui œuvrent dans le service à l'autre afin de rendre ce monde plus safe et que nos relations nous nourrissent plutôt que nous pourrissent. Si vous avez une activité dans le bien-être, que vous êtes thérapeute ou coach, vous trouverez ici des conseils stratégiques, des retours d'expérience et des tas d'informations pour faire fleurir votre business. Avoir une vocation, c'est fabuleux et en vivre, c'est encore mieux. Bienvenue dans le podcast « Je peux pas, j'ai l'une », le podcast qui prend soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. Et bienvenue dans l'épisode 21, bienvenue dans cette nouvelle saison, la saison 3 du podcast « Je peux pas, j'ai l'une ». Je suis vraiment ravie de vous retrouver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des 7 meilleurs conseils pour une organisation optimale lorsque l'on est entrepreneur dans l'accompagnement. Car en effet, qui dit projet, création ou développement d'une entreprise dit forcément organisation. Mais ce que je constate dans mes coachings ou formations auprès des entrepreneurs du domaine du soin et de l'accompagnement, c'est que l'organisation n'est pas forcément adulée. Elle est même parfois complètement rejetée, ce qui crée un planning éclaté, un quotidien professionnel au petit bonheur la chance en fonction des humeurs de la journée et un chiffre d'affaires qui va forcément jouer au yo-yo. On entendra ensuite des plaintes ou des « on dit que » comme quoi les métiers du bien-être ne sont pas viables, qu'accompagner l'autre ça épuise et qu'il n'y a plus de place pour son projet car il y a beaucoup trop de thérapeutes ou de coachs sur le marché. Alors, pour faire très court, je répondrai en un mot à ces trois « on dit que » non. Car oui, il est possible de vivre d'une activité dans le domaine du bien-être à partir du moment où on la gère comme une véritable entreprise qui doit rentrer un chiffre d'affaires grâce à une stratégie claire dans son marché cible. Il n'est pas juste question d'une passion, même si la passion, c'est le feu qui permet de commencer. Être entrepreneur est bien un métier à part entière. Et non, l'accompagnement n'est pas épuisant à partir du moment où l'on pense à soi en priorité et où l'ancrage fait partie de la posture professionnelle de façon constante. On ne donne pas de soi quand on accompagne son client ou patient, mais on se met à l'écoute en œuvrant avec ses outils et son talent, en prenant toujours garde à sentir les propres limites de son intégrité physique et psychique. Cette posture de se mettre au service de l'autre est une posture qui s'apprend et qu'il est nécessaire de répéter afin de l'acquérir et d'agir toujours à partir d'elle. Et enfin, oui, le soleil brille pour tout le monde. Le marché des thérapies non conventionnelles et des accompagnements humanistes n'est pas encore saturé et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, je rajouterai même que pour moi, il ne pourra jamais être saturé parce que en fonction de là où en sont nos clients, ils vont choisir le thérapeute, l'accompagnant ou la pratique qui leur convient. Et ce marché le sera peut-être saturé le jour où chaque professionnel affichera complet et que des personnes chercheront en vain des créneaux de consultation libres. Peut-être un peu comme ça se passe avec les médecins généralistes, me direz-vous, aujourd'hui. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de médecins sur le territoire, ou en tout cas, ils ne sont pas répartis de façon équitable. En tout cas, concernant le marché de l'accompagnement et du bien-être, nous ne sommes pas à saturation, et pour moi, nous y sommes encore loin, vraiment loin d'y être. Et j'ai même envie d'ajouter que le marché du bien-être sera saturé le jour où chaque humain, chacun des êtres humains sur cette belle planète aura pris en charge ses traumatismes et ses blessures et sera majoritairement autonome dans sa capacité à se prendre en soin. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on en est encore un peu loin. Donc oui, 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 vous avez votre place et votre projet ou votre activité professionnelle est même vitale pour notre humanité. Donc pourquoi rejeter autant l'organisation? Qu'a-t-elle de si répugnant pour qu'elle soit autant urticante pour les professionnels de l'accompagnement que nous sommes, que vous êtes? Bien, je vais tout d'abord commencer par un aveu. J'ai moi-même rejeté en bloc toute organisation à une certaine période de ma vie. Je comprends donc très bien ce qu'il se passe pour vous, et peut-être que cela va vous surprendre, mais c'est justement l'entrepreneuriat qui m'a grandement réconciliée avec cette très belle qualité que d'être organisée. Jeune femme, j'avais décidé de ne plus jamais rien organiser dans ma vie, que ce soit à titre personnel, amical ou même professionnel. Alors, sauf bien sûr quand j'étais dans les services avec une équipe de collègues infirmiers, parce que y avait une organisation qu'il fallait tenir. Mais celle-ci, c'était pas moi qui l'avais décidé. J'avais en effet à cette époque décidé de laisser la spontanéité, la surprise et la vie faire les choses en me proposant des opportunités que je serais libre de suivre ou non. Je me sentais vraiment bien avec ce mode de pensée et de vie, et pour tout vous dire, je me sentais même parfois au-dessus des autres en pensant que tout le monde avait tort et que ma vision était la meilleure. Pourtant, par la force des choses, j'ai dû remettre de l'organisation dans ma vie afin que celle-ci ressemble dans le concret à mes rêves. Et oui, parce que mine de rien, le temps passe et plus le temps avançait, moins je voyais mes rêves se réaliser. Mais alors, pourquoi en étais-je arrivée là? Pourquoi voyais-je l'organisation comme l'ennemi numéro 1 à la spontanéité et à même à la vie tout entière? Eh bien, la première explication que je vois à ce choix très assumé de la non-organisation est tout d'abord liée à mon éducation. J'ai en effet grandi dans une famille où l'organisation primait sur tout, absolument sur tout, même le lien de sécurité affective parent-enfant. Ma mère, particulièrement, était une femme très rigide et très trop organisée. Un climat de pression régnait dans le quotidien et aucune place n'était faite à l'erreur ou à l'imprévu. J'ai donc très tôt associé l'organisation avec le stress. Et le stress à l'absence de vivant en moi et autour de moi. C'est donc très naturellement que j'ai fait une belle polarité en devenant jeune adulte. Je suis allée d'un extrême à l'autre en passant d'une organisation psychorigide chez mes parents à une vie totalement improvisée chez moi. J'ai cessé toute organisation afin d'éliminer le stress et de me sentir libre. Enfin, c'est ce que je croyais au début. Et vous, est-ce que de votre côté, vous avez aussi l'impression que votre éducation influence votre façon d'aborder votre profession? Posez-vous vraiment cette question. En abandonnant toute forme d'organisation, je me suis sentie très vite débordée. J'avais l'impression de ne pas réussir à faire tout ce que j'avais en tête. Plutôt de surfer sur le temps, je luttais contre. Mais fort heureusement, j'ai très vite repris mes études en shiatsu, 3 ans après mes études d'infirmière, tout en continuant à exercer mon métier. J'ai créé ma première association et j'ai ouvert 2 cabinets. Donc impossible de ne pas être organisée avec des projets de ce type. Voici donc mes outils préférés en termes d'organisation professionnelle. Attention, c'est parti, prise de notes obligatoire. Premièrement, la to-do list, mais pas n'importe laquelle. Ma to-do list, digne d'efficacité, comprend toujours une date et seulement quelques items. J'évite de dépasser 10 points par jour. Ou si c'est le cas, je hiérarchise mes actions en les répartissant sur les jours suivants. Deuxièmement, j'apprécie particulièrement le macro-planning hebdomadaire. Ce planning n'est pas un planning ordinaire, c'est un planning qui n'est pas détaillé. Il est par contre fixé sur une longue période. En général, mon planning hebdomadaire, mon macro-planning hebdomadaire, est valable sur à peu près 1 à 2 saisons, voire un peu plus, mais ensuite il devient obsolète. Donc je suis amenée à le refaire. Le macro planning, qu'est-ce que c'est? Le macro planning hebdomadaire, eh bien, il vous permet de repérer et de noter les grandes tendances de la semaine, sans noter d'horaire. Par exemple, lundi va être intitulé jour priorité, ça va être écrire mes textes pour le blog, écrire pour mes textes pour le podcast, le mardi et jeudi, répondre à mes mails, le vendredi, travailler sur les formations. Le macro planning, c'est pas un agenda. Donc il n'est pas question de le recopier. Troisième outil, qui dit macro planning hebdomadaire, dit aussi macro planning annuel. Donc mon troisième outil, c'est le macro planning annuel. C'est vraiment un outil idéal d'organisation et de productivité. Et moi, j'adore cet outil. C'est donc un outil sur lequel j'ai des petites cases avec chaque mois et chaque mois, je vais noter les grandes tendances mensuelles. Par exemple, janvier, c'était la formation en EMDR. Février, c'est le webinaire et la nouvelle promotion pour la formation Vive de sa vocation. Chaque 30 du mois, je fais ma comptabilité. Alors forcément, une fois qu'on a une grande clarté avec les macro-plannings, eh bien il est vital d'avoir un bon agenda. Et c'est là que intervient mon quatrième outil. Là où le macro-planning ne pourra pas remplir la tâche, eh bien l'agenda le fait à merveille. Donc dans votre agenda, je vous invite vivement à noter en avance, attention roulement de tambour, vos congés. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Vos rendez-vous avec vous-même. Est-ce que vous avez un créneau pour votre sport, pour votre yoga, pour votre marche, un week-end en amoureux, etc. Et vous allez aussi noter, pour les femmes, celles qui ont un cycle ovarien, eh bien vous allez en effet noter les phases de votre cycle. Parce que selon là où vous en êtes dans votre cycle, vous n'aurez pas la même façon de travailler. Sur ce dernier point, d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 17 du podcast « Je peux pas, j'ai l'une » et je vous renvoie vers le guide gratuit « Cycle complice » que vous pouvez trouver sur mon site internet. Je vous mettrai bien évidemment les liens sous cet épisode. Car en effet, quand on travaille à son compte, on a tendance à ne pas compter ses heures. Et donc, en programmant vos repos, en priorité, vous vous assurez vraiment de garder votre pleine forme. Et une entreprise en pleine forme, elle l'est grâce à un entrepreneur, à une entrepreneur qui est en pleine forme. Un agenda bien tenu et efficace pourra comporter des couleurs, par exemple, pour distinguer nettement ce qui est, par exemple, professionnel ou personnel, ce qui est de l'ordre du rendez-vous avec votre client ou bien ce qui est de l'ordre avec votre travail de coulisses. Mon cinquième outil, l'horloge, ou plutôt le timer. Pour moi, ce sont vraiment deux outils indispensables pour une organisation au taquet. Avant de devenir chef d'entreprise, je pensais que ça servait strictement à rien d'évaluer mon temps. À présent, plutôt que de me stresser et de subir cette heure qui file, eh bien je préfère minuter mes actions. Alors c'est très simple, je travaille essentiellement par rétroaction. Je sais ce qui doit être fini et surtout je sais quand ça doit être fini. Je divise alors mon temps afin d'agir un temps donné pour l'action choisie. Cela me permet d'être aussi très réaliste dans mes to-do list. Par exemple, je sais que dans 1h30, j'ai un rendez-vous. Je sais que j'ai 3 actions à faire. J'arrive avec l'habitude à timer mes actions. Je sais que une action va par exemple me prendre 15 minutes et les 2 autres vont me prendre à peu près 40 minutes. Donc je m'en rends compte que sur le temps imparti, ça peut être juste. Donc je peux choisir de faire seulement une action de 10 minutes et une action de 40 minutes et de me dire de choisir ensuite, avec le temps libre que j'ai, de choisir une autre action ou bien de faire 2 actions de 40 minutes. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de découper en partant en rétro-planning. Sixième outil, j'ai toujours deux carnets avec moi. L'un de mes carnets, souvent un carnet à spirale, me permet de lister mes actions, de lister ma to-do list. J'ai, on va dire, depuis longtemps abandonné les feuilles volantes au profit des carnets. Pourquoi ? Bah parce que mes feuilles volantes, je commençais à les collectionner, je barrais sur l'une, je voulais la mettre à la poubelle, mais je pouvais pas. Bref, je me retrouvais avec un tas de feuilles, je retrouvais jamais la bonne feuille au bon moment. Enfin bon, voilà. L'idée du carnet pour la to-do list, pour moi, c'est vraiment d'être sûr de ne jamais oublier une action. En plus, je peux vous dire que c'est vraiment gratifiant de tourner les pages et de s'en rendre compte que les actions sont barrées et que finalement, il y a une quantité d'actions qui ont été réalisées. Et ça, je peux vous dire que pour la confiance en soi, pour l'estime de soi et la fierté, l'auto-fierté, eh bien, c'est extraordinaire. Je n'attends plus que l'autre me félicite de l'extérieur puisque je sais moi-même tout ce que je suis en capacité de faire. Mon deuxième carnet, lui, c'est un carnet de notes que je prends avec moi quand je pars à des rendez-vous, quand je vais à des conférences ou quand j'écoute des vidéos ou des épisodes et que je veux retenir des informations qui vont nourrir ma pratique, nourrir ma curiosité. Dedans, j'écris aussi tout ce qui me passe par la tête, mes idées, mes cartes mentales ou autres comptes rendus ou notes. Ce carnet-là, c'est un peu comme le prolongement de mon cerveau. J'aime bien l'avoir toujours avec moi et autant vous dire que si je le perds, je me sens pas très bien. Autant le premier carnet, je vais pas le conserver quand il sera plein, il partira à la poubelle. Autant mon carnet de notes, je les conserve tous et ils sont tous archivés dans une malle, bien au chaud et il m'arrive de les reprendre. J'adore feuilleter mes anciens carnets et c'est vraiment drôle de constater notamment les évolutions professionnelles et de relire entre autres les mind maps. Je vous invite vraiment à faire ce travail, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment chouette et puis je sais pas, c'est un peu comme ça fait un peu comme chaud doudou pour moi à l'intérieur, voilà, c'est vraiment gratifiant et il y a quelque chose de très chouette en fait de voir cette évolution. Ce qui est le plus fou avec tous ces outils, c'est que je fais encore plus de choses dans ma vie alors que je suis entrepreneur et maman solo. Et que quand j'étais sans enfant et que j'avais juste une association et mon travail d'infirmière, je me sentais débordée. Franchement, avec une organisation hyper calée, on peut vraiment vivre une vie à 100% qui nous ressemble. Et pour terminer, je souhaiterais vous dire que la meilleure des organisations, c'est celle que vous vous créez vous-même. Peut-être que certains de mes outils vont vous parler. Peut-être que d'autres ne vont pas vous parler. Vous n'êtes en aucun cas obligé de garder et de mettre en place ces six outils. Retenez, le septième outil, c'est de créer votre organisation sur mesure. Ne multipliez pas trop les outils pour vous organiser et allez toujours à l'essentiel, ce qui est essentiel pour vous. Il me semble tout de même que ce qui compte, c'est d'avoir toujours à l'esprit pourquoi vous faites les choses. Le comment, c'est une conséquence logique qui va découler de ce pourquoi. Vous pouvez d'ailleurs, avant la mise en place de votre organisation optimale, aller télécharger sur mon site internet le document que j'ai appelé les 6 pourquoi. Pareil, je vous mettrai le lien sous cet épisode. À présent, vous devriez sentir que l'organisation n'est plus un virus à suivre, mais plutôt un précieux allié à embrasser complètement. Et donc, si c'est le cas, vous devriez d'ores et déjà être en train de planifier un temps dans votre agenda pour vous créer, imaginer et travailler sur vos outils idéaux d'organisation. Sachez tout de même que vous n'êtes pas obligé de tout changer tout de suite. Faites par étapes. Vous pouvez simplement débuter par l'un des outils dont je vous ai parlé. Vous pouvez évaluer son efficacité avant de passer au suivant. Et si vous sentez qu'il est temps pour vous d'aller plus loin en termes de réussite organisationnelle et donc forcément de réussite entrepreneuriale, eh bien je vous laisse aller découvrir la formation Vivre de sa vocation, une formation qui vous guide pas à pas vers le professionnalisme et la sécurité financière. Je vous donne aussi rendez-vous le 23 février à 18h en live pour le webinaire Vive de sa vocation où je vais continuer à vous donner quelques conseils, les meilleurs conseils pour vraiment vivre de votre vocation avec vraiment une méthodologie. Et ce sera pour vous aussi l'occasion de découvrir l'intérieur, les coulisses de la formation Vive de sa vocation. Je vais aussi rajouter ici que j'ai fait le choix parce que nous sommes dans une période où, en ce moment, la crise financière, la crise même tout court, j'ai envie de vous dire, est bien présente. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas augmenter le tarif de la formation Vive de sa vocation, alors que la formation Vive de sa vocation, elle englobe deux formations, créer son activité et déployer son entreprise. Et en plus, elle a des cours en supplément avec des masterclass qui auront lieu tous les 15 jours. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que je pense vraiment que c'est le moment de ne pas laisser le mental prendre le dessus et la peur prendre le dessus, même si nous sommes dans une période de crise. C'est justement le moment pour agir et agir vers vos rêves, et c'est le moment de mettre en place un business dans le bien-être qui fonctionne. Le monde en a besoin. Donc, pour plus d'informations, je vous invite, si vous voulez, à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je répondrai avec joie, je réponds toujours d'ailleurs. Vous pouvez aussi aller visiter la page de mon site web Vive de sa vocation. Et sinon, je vous dis à bientôt sur le prochain épisode ou bien les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Fanny Frock pour ACE Formation. Portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Dites-le-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un avis ou vos idées pour les prochains épisodes. Je vous lirai et répondrai avec grande joie. Pour faire vivre le podcast Je peux pas, j'ai l'une, merci de vous y abonner et de le partager.